Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à débuter. Au menu aujourd'hui, l'info du jour, pas de festival quartier d'été en 2024. Deux reportages, d'abord lors de la mobilisation de Bloom avant le vote sur une proposition du groupe écologiste au conseil régional. Puis retour sur un inventaire de la biodiversité sur le campus Carlan à Bru. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, et puis une recommandation, animation autour du cuir à l'écomusée de la Bantinet. Bienvenue dans l'arène. Et on lance l'émission d'information locale, comme à chaque fois, avec l'info du jour, une que je choisis parmi d'autres dans l'actualité locale. Et aujourd'hui, c'est le 4 bis Information Jeunesse qui l'annonce. Pas d'édition du festival quartier d'été à Rennes pour l'année 2024, un événement qui devait pourtant fêter ses 30 ans cette année. Dans le communiqué, il est question d'une décision difficile, prise en raison de circonstances exceptionnelles. Alors, il y a d'abord les Jeux Olympiques qui débuteront dès le mois de mai à Rennes avec l'accueil de plusieurs équipes internationales. National, un événement qui mobilisera d'importantes ressources en matière de sécurité. Dans le même temps, le 4 bis rencontre des difficultés financières. Touché de plein fouet par l'inflation, c'est ce qu'on lit dans les colonnes de Ouest France, le festival avait ouvert du mécénat solidaire l'année dernière, mais l'initiative avait moyennement marché. Et comme le festival est gratuit, que les recettes du bar sont limitées puisqu'il n'y a pas d'alcool, eh bien les recettes globales, elles sont modestes et les subventions de la ville de Rennes restent au même niveau dans un contexte d'inflation qu'on connaît, mais particulièrement sur les budgets sécurité et artistes. Enfin, le 4 bis Information Jeunesse, qui est une association, on le rappelle, est en phase de réorganisation avec plusieurs départs de salariés. L'équipe préfère donc donner rendez-vous au public les 16 et 17 juillet 2025, toujours au Parc des Gailleuls, pour une nouvelle édition de ce super festival quartier d'été qu'on espère bien voir revenir. Allez, après cette info du jour, on continue avec un premier reportage. Et j'en ai mon micro aux abords du conseil régional à Rennes, où une trentaine de personnes étaient mobilisées jeudi 18 avril, veille d'un vote sur un vœu porté par les écologistes, appelant à faire de 30% des océans des aires marines vraiment protégées. Alors depuis, on l'annonce, le vœu il a été rejeté en séance plénière, au motif, selon le vice-président à la mer et au littoral, que les ONG mobilisées seraient des multinationales qui visent à coloniser les océans, avec en particulier comme objectif de dégager les pêcheurs et les mettre dans des réserves. Un discours sur lequel l'association Bloom revient en ligne, je vous laisserai aller voir le détail, mais taxant le vice-président en question de complotiste. Bon, le reportage quand même, pour comprendre les arguments des défenseurs de l'environnement ici de la mer, le climatologue Jean Jouzel va dans le même sens qu'eux en apportant sa signature à une tribune qui réunit 260 chercheurs. C'est sorti hier, jeudi. Tous, ils reprochent au gouvernement son inaction pour le climat, notamment sur le sujet des océans.
Donc cette feuille de route qui a été votée en février, très discrètement, parce que vous le savez, nos documents avant la session, là on peut vous rendre public le vœu, parce que c'est nous qui le proposons en tant que groupe politique, mais sinon les feuilles de route qui sont proposées au vote, elles sont confidentielles jusqu'au jour du vote, ça veut dire qu'en fait les citoyens ne sont pas du tout associés à la façon dont ça va se passer, et une fois que c'est voté, on vous dit bon bah voilà, c'est comme ça, et bah c'est trop tard en fait. Et aujourd'hui, on propose ce vœu parce que suite à l'échec de la demande qui était simplement de faire une vraie démocratie pour la mise en œuvre d'une politique qui dure 5 ans, qui cadre toute la politique maritime et de pêche de la région. On avait demandé juste qu'elle soit remise sur le métier et qu'on puisse consulter tous les acteurs, les associations de préservation du vivant, les associations littorales, les gens qui sont usagers de la mer, mais pas forcément seulement les pêcheurs. Et ça, ça nous a été refusé. Donc je comprends que derrière, les associations aient eu envie de se mobiliser. Et donc, on a pris le manifeste qui a été issu de ce travail et on s'est dit, on va prendre un point qui nous paraît essentiel pour essayer de ramener ça au débat au sein de l'institution. Et donc c'est pour ça qu'on propose ce vœu sur les aires marines protégées, parce que les aires marines protégées, ça cumule à peu près tous les sujets, c'est-à-dire le sujet de l'arbitrage entre la préservation du vivant et l'activité économique, le sujet de la prédation entre les différents modèles économiques qui cohabitent sur la mer, et le fait que ce soit toujours les gros qui gagnent aux dépens des petits.
Moi, je suis Claire Desmarches, la présidente du groupe écologiste à la région Bretagne.
On essaie d'expliquer ce vœu en quelques mots aux auditeurs qui est donc présenté demain en séance plénière.
Nous, on demande, donc c'est un vœu, c'est la région Bretagne qui s'exprime à l'attention du ministre, en l'occurrence de la mer, monsieur Berville, pour lui demander que soit mis en place en Bretagne, en particulier, mais en France en général, de vraies aires marines protégées. Pas les fausses aires marines protégées qu'on a aujourd'hui où il est autorisé de chaluter et d'avoir des pratiques de pêche qui sont destructrices, mais des vraies aires marines protégées qui protègent la ressource, qui protègent la pêche côtière et qui protègent la biodiversité, parce qu'on parle toujours de la ressource, mais en fait il n'y a pas seulement les poissons qu'on mange qu'il faut protéger, c'est juste tout l'écosystème marin. Et les fonds marins aussi, parce que c'est, la mer capte du carbone et que c'est aussi un enjeu pour le changement climatique de préserver les fonds marins.
Le discours du côté de la majorité au Conseil régional a été de dire qu'il n'y avait pas de pêche industrielle en Bretagne. Est-ce qu'on a un peu des éléments sur la balance un peu entre pêche dite artisanale et pêche industrielle dans la région ?
Alors c'est très intéressant qu'on en arrive à ce genre d'éléments de langage. Il n'y a pas de pêche industrielle. Ben si, évidemment qu'il y a une pêche industrielle. Évidemment que le chalutage de fond, le chalutage en général, c'est des pêches qui ont un impact énorme sur l'écosystème marin. Quand on voit le bateau qui est amarré actuellement à Saint-Malo et celui qui va le remplacer, c'est quand même difficile de dire qu'il n'y a pas de pêche industrielle en Bretagne. Même si ce bateau il a vocation à aller ailleurs, aujourd'hui son effort de pêche il est quand même énormément dans la Manche et dans l'Atlantique, donc en fait ça impacte les pêcheurs ici, donc non, ça c'est faux, évidemment que c'est faux, et on souhaite justement qu'il puisse y avoir un vrai débat, parce qu'aujourd'hui, à part des éléments de langage qui nient l'évidence, on n'a pas de vision. C'était le reproche qu'on faisait à la feuille de route pêche qui a été votée en février sans aucun dialogue, et c'est toujours ce qu'on constate aujourd'hui quand on voit le débat qui a lieu sur ce vœu.
Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses en pleine semaine devant le Conseil régional de Bretagne. Il faut savoir qu'on a demain un vote crucial qui est vraiment d'une importance majeure dans notre combat pour la protection de l'océan et pour la transition sociale et écologique du secteur de la pêche.
Donc Swann Baumier, responsable du plaidoyer au sein de l'association Bloom. Donc l'association Bloom, c'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a comme mission la protection de l'océan, la défense de la pêche artisanale pour créer de l'emploi sur les littoraux, de l'emploi dans la pêche, des emplois durables qui respectent les écosystèmes marins et qui permettent par ailleurs de laisser aussi les écosystèmes océaniques se régénérer pour le climat, pour la biodiversité. On est une trentaine de salariés et après on a une très grande liste de soutien. On est présent sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, vous pouvez nous suivre. Et on a lancé il y a maintenant un mois, la Coalition citoyenne pour la protection de l'océan, qui réunit près de 100 ONG et maintenant plus de 30 000 citoyens. Et on a 15 points pour sauver l'océan, le climat et les emplois, avec des demandes très précises. Il faut savoir que 2024, ça a été décrété l'année de la mer par le président de la République Emmanuel Macron. Dans un an, la France va accueillir à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Et on a en France un refus constant du gouvernement d'avancer sur la protection de l'océan, d'engager la transition sociale et écologique du secteur de la pêche. Et donc on est aujourd'hui devant le Conseil régional de Bretagne pour mettre fin à cette défense acharnée du statu quo par le gouvernement français qui refuse de remettre en cause un modèle de pêche industrielle qui détruit les écosystèmes et qui détruit les emplois.
On se retrouve à la veille du vote d'un vœu porté par le groupe écologiste qui concerne les aires marines protégées en Bretagne. Qu'est-ce qui, à votre avis, empêche l'action de la majorité socialiste au Conseil régional ?
Oui, alors d'abord, il faut se rendre compte qu'on a des engagements internationaux qui ont été pris notamment par la France lors de la COP15 sur la biodiversité à Montréal. On a des objectifs européens pour protéger 30% de nos eaux. Et on a un consensus scientifique très clair aujourd'hui du GIEC, de l'IPBES, de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
IPBES, c'est une plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.
Pour dire, il nous faut des aires marines protégées, cohérentes et efficaces, dans lesquelles on interdit les activités industrielles et notamment la pêche industrielle et les techniques de pêche destructrice. En France métropolitaine, il y a moins de 0,1% de nos eaux qui sont protégées selon les critères scientifiques internationaux et qui interdisent le chalutage de fond. Le chalutage de fond, c'est une méthode de pêche destructrice qui consiste à racler sur les fonds marins des filets qui sont lestés, qui attrapent tout sur leur passage et qui détruisent tous les écosystèmes marins qui sont présents, puisque on est littéralement en train de passer au bulldozer sur les fonds marins. L'enjeu du vote des écologistes de Bretagne qui sera soumis demain à la discussion, c'est de demander à la France de prendre son courage à deux mains, de prendre ses responsabilités et d'interdire le chalutage dans les aires marines protégées. C'est des objectifs qui sont écrits au niveau européen. Et la France refuse depuis des années de faire quoi que ce soit. Le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, Hervé Berville, a dit il y a un an être, je le cite, totalement, clairement et fermement opposé à l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées. Ça n'a fait aucun sens. C'est-à-dire qu'on dit sur le papier avoir des aires marines protégées et on laisse les techniques de pêche les plus destructrices opérer au sein même de ces aires marines dites protégées. On est les champions européens du chalutage. On a l'aire marine protégée la plus chalutée d'Europe. C'est les talus du golfe de Gascogne.
Alors créé en 2017, il s'agit d'une immense zone spéciale de conservation marine offshore qui va de la Bretagne à l'Aquitaine, un site spécialement protégé pour des espèces comme le marsouin commun et le grand dauphin et pour des habitats comme les récifs.
C'est une vaste aire marine qui permet de faire du chiffre, qui permet de se présenter sur la scène internationale comme étant soi-disant des champions de l'océan. Et en fait, rien n'y est interdit. On a des techniques de pêche destructrices qui opèrent chaque jour. On a des méga chalutiers de plus de 80 ou 100 mètres de long qui opèrent dans cette aire marine soi-disant protégée. Et c'est ce modèle-là qui perdure parce qu'on a un lobby du chalut qui est extrêmement fort. Et ce lobby du chalut, il est extrêmement fort au niveau national, mais il est aussi très influent en Bretagne. Et les écologistes de Bretagne ont déposé un vœu pour demander au gouvernement d'agir. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pour les élus bretons de montrer qu'ils prennent au sérieux les recommandations scientifiques, les engagements européens, etc. Et que, surtout, le verrou qui est imposé par le lobby du chalut et par la région bretonne sur la politique publique en matière de protection de l'océan et de transition de la pêche a sauté. Que ce verrou a sauté et que, réellement, on est en train d'avoir une région bretonne qui se rend compte que la protection de l'océan, la protection et le développement de la pêche artisanale, il se fera grâce et avec les pêcheurs artisans, grâce et avec des aires marines protégées dans lesquelles on interdit les méthodes de pêche destructrices pour restaurer les écosystèmes, permettre d'avoir des zones dans lesquelles les pêcheurs artisans peuvent pêcher sans être en concurrence déloyale avec des engins qui détruisent tout sur leur passage et qui laissent un désert dans leur sillage. C'est ça qui se jouera demain au Conseil régional de Bretagne.
Un mot sur ce donc vice-président conseil régional, alors personnage qui cultive certaines ambiguïtés puisqu'il est connu pour avoir été maire en lutte contre les pesticides. Il est aujourd'hui vice-président à la mer et au littoral au conseil régional qui a réagi là en amont de cette mobilisation en qualifiant certains scientifiques de militants et en jugeant votre mouvement porteur d'une violence symbolique.
C'est un discours qui agite des chiffons rouges et qui n'a aucune assise scientifique, qui n'a aucun sérieux dans les propos qui sont ainsi portés dans le débat public. Il faut vraiment se rendre compte que dire que les recommandations du GIEC, les constats dressés par l'IPBES, les recommandations de l'Union internationale pour la conservation de la nature seraient militants, c'est tourner le dos à toute la science. C'est porter un discours qui s'assoit sur les engagements qui ont été pris par la France elle-même. Donc c'est quelque chose qui dépasse complètement le cadre de discussion dans lequel on peut réfléchir et débattre de comment on engage des transitions de façon apaisée. C'est une négation du débat public, puisque si on s'assoit sur toutes les études scientifiques, le consensus scientifique, ce que nous avons construit depuis des années au niveau international, sachant que l'océan est quand même le thermostat planétaire mondial, les courants marins dictent le climat à l'échelle planétaire, et l'océan capte près du tiers de nos émissions de carbone. On ne peut pas vivre sans un océan en bonne santé. C'est l'ensemble de l'humanité qui dépend de la santé de l'océan. Face à cela, dire que les recommandations scientifiques seraient militantes et dire que porter ces recommandations scientifiques dans le débat public serait une violence symbolique, cela n'a aucun sens, c'est irresponsable. C'est irresponsable aussi vis-à-vis des pêcheurs artisans qui sont aujourd'hui les premières victimes du statu quo mortifère dans lequel le lobby du chalut nous enferme.
La réaction de Claire Desmarres-Poirier, conseillère régionale écologiste, toujours au communiqué du vice-président mer et littoral Daniel Cueff.
Moi j'ai du mal à comprendre et je pense que les gens qui ont voté pour Daniel Cueff en pensant qu'il était écologiste, on peut avoir plusieurs espaces de l'écologie, des différences d'appréciation sur certains sujets, mais je pense que ce qu'il défend aujourd'hui est quand même extrêmement loin, voire totalement à l'opposé de toutes les formes d'écologie qui existent. Donc oui, moi aussi ça me surprend et je pense que les électeurs doivent être extrêmement déçus, je le comprendrais.
Et comment vous analysez l'incapacité à agir quand on est une majorité à un conseil régional comme celle-là? Alors est-ce que c'est de l'aveuglement? Est-ce que c'est un blocage économique lié au lobby? Et comment est-ce qu'on l'analyse?
Il y a un lobbying qui est extrêmement puissant en Bretagne, en particulier celui de l'agro-industrie et de la pêche. Ça n'est absolument pas anecdotique. Hein. L'incendie du Parlement de Bretagne à côté d'ici, c'est une manifestation de pêcheurs. Les coups de pression, les coups de force d'Olivier Lenezet sur la zone lorientaise et même à toute l'échelle de toute la Bretagne, on les connaît en fait. Donc oui, il y a un lobbying qui est très fort. On sait que c'est le lobby de la pêche qui a écrit la feuille de route. On reconnaît tous leurs éléments de langage, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont de toute façon table ouverte. Breizmer, qui est l'organisme satellite de la région pour gérer les questions de pêche, est entièrement voué. Il n'y a que la parole de la pêche industrielle qui est entendue dedans. La petite pêche n'a pas sa place autour de la table. Donc en fait, évidemment qu'aujourd'hui, le lobbying est extrêmement fort. Et donc moi, je pense qu'il y a un manque de courage politique réel de la part de l'exécutif. Mais il y a aussi une volonté plus ou moins affichée de dire, bon bah voilà, les intérêts économiques qui sont là.
De poursuivre avec le modèle existant.
On continue comme on faisait avant. Bah nous, on dit que c'est pas possible.
Nous, ce qu'on demande aux élus du Conseil régional de Bretagne, c'est de juste prendre conscience qu'on a aujourd'hui une urgence climatique, une urgence sociale qui nous demande d'avoir le courage d'engager une transition dans ce secteur. On a des études qui sont maintenant extrêmement nombreuses aussi qui montrent que le chalutage n'est pas une voie d'avenir pour les écosystèmes, mais aussi même pour les finances publiques. Il faut savoir que chaque année, en France, 200 millions d'euros de subventions publiques sont accordées en aides gasoil. Ces aides gasoil, elles vont en vaste majorité au chalutage, parce que pour racler les fonds marins en traînant des filets lestés, il faut une énorme puissance moteur et donc une énorme dépense en gasoil. On ne peut pas continuer à racler les fonds marins, à remettre en suspension du CO2 et à juste détruire les conditions mêmes de reproduction, de croissance de la faune marine.
Il s'agit aujourd'hui, pour le conseil régional et la majorité et l'ensemble des conseillers régionaux, de soutenir le vœu qui leur est proposé par les écologistes de Bretagne pour montrer que nous avons en Bretagne une réelle volonté de changer la politique publique nationale et bretonne en faveur de l'océan et des pêcheurs artisans. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions importantes que je n'ai pas posées ?
Il faut savoir que ce développement et cette mise en œuvre de véritables aires marines protégées en France, en Europe et dans le monde, c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire. Il vient de se terminer une conférence internationale à Athènes, la conférence Our Ocean, durant laquelle la Grèce a annoncé qu'elle allait d'ici 2030 développer son réseau d'aires marines protégées pour atteindre 30% de protection et qu'elle allait interdire le chalutage de fond dans l'ensemble de ses aires marines protégées. Et donc, on voit qu'il y a des États qui, après avoir mis en œuvre une politique du chiffre avec quelques aires marines protégées, est en train maintenant de passer de l'aire marine à protéger à l'aire marine qui est effectivement protégée. Et ça, c'est un mouvement qu'on voit qui se développe de plus en plus. Face à ça, la France, on a appris ça lundi dans le Financial Times, est en train de faire pression sur la Commission européenne pour que le Royaume-Uni, qui commence lui aussi à interdire le chalutage de fond dans certaines de ses aires marines protégées, renonce à cette protection. Et pour perpétuer un statu quo mortifère sans avoir à souffrir la comparaison par rapport à des États qui prennent leurs responsabilités dans la lutte contre le dérèglement climatique, dans la lutte contre l'effondrement de la biodiversité et pour la promotion de la pêche artisanale et d'une pêche durable en Europe et dans le monde.
La protection de l'océan, oui, les pêcheurs artisans aussi, quand, maintenant. La protection de l'océan, oui, les pêcheurs artisans aussi, quand, maintenant.
Disco avec le morceau Sleeping Sea, ça tombait bien vu le reportage La mer dormante. C'était une nouveauté musicale repérée par notre programmateur Yann et à retrouver sur un album de Maot, ça veut dire larme en hébreu, et c'est un disque qui est attendu pour dans quelques semaines, début mai. Ce sera le nouvel album de ce trio israélien Rasco qui transcende les frontières du surf, rock et du psychédélisme et qui, en ces temps compliqués, espère voir la paix revenir au Moyen-Orient et d'y croire en une solution à deux États. Vous venez de les entendre, les membres de Rasco sur Canal B, dans l'Arène, l'émission d'information locale, qui se poursuit avec tout de suite un deuxième reportage. Les 17 et 18 avril, l'École des métiers de l'environnement Unilassal Rennes organisait un inventaire de la biodiversité sur le campus Carlan du côté de Bru. 240 participants, des étudiants, des habitants, sont partis accompagnés d'experts à la découverte de différentes espèces. Oiseaux, libellules, reptiles, insectes, chauves-souris, papillons, amphibiens, ça c'est pour la faune, et aussi à la découverte des arbres ou encore de lichens côté flore. L'occasion aussi de rencontrer l'association Pacifique Planète à les reportages.
Et là, on a un bulbe en train de se former. C'est la renoncule bulbeuse. Donc le bulbe sert à la plante pour passer l'été. Donc là, elle fleurit. Dans un mois, elle sera en graine. Et à partir du mois de juin, tous les organes aériens seront disparus. Et le bulbe germera à la fin de l'été, disons vers le mois de septembre, pour redonner un nouveau cycle essentiellement hivernal.
On est sur le campus de Carlan à Bru et on a pendant deux jours un événement qui s'appelle BioBlitz. Donc BioBlitz, c'est un inventaire éclair et participatif de la biodiversité sur une situation géographique qui est délimitée en amont, donc là en l'occurrence la ZAC de Carlan, et sur une durée qui est limitée, qui est 48 heures, pour inventorier tous les taxons, faune, flore qu'on peut trouver sur le territoire. Du coup, je m'appelle Iris Bouchonnet et moi je suis chargée de mission de transformation écologique et sociétale à Unilassal Rennes.
Comment est-ce qu'on peut présenter cet établissement aux auditeurs qui ne le connaissent pas ?
C'est une école d'ingénieurs qui a également un bachelor spécialisé en génie de l'environnement. Donc tout ce qui va être en lien avec la gestion de l'environnement, les questions de pollution, dépollution, déchets, biodiversité notamment.
Et est-ce qu'on peut dire combien il y a d'étudiants aujourd'hui ?
600 étudiants dans l'école. Donc BioBlitz, c'est un projet qui tourne d'un campus à l'autre, d'année en année. Il y en a eu 5 sur le territoire de Rennes Métropole, notamment 2 à Paimpont, il y en a eu à Beaulieu ou même à Villejean l'année dernière et à Institut Agro. Et du coup, en fait, on se partage entre nous un peu le kit organisateur pour qu'on puisse reproduire ce projet-là, les bases de données des experts et puis aussi le matériel, en fait, tout simplement, de collecte des données. Et donc du coup il y a eu ce travail là en amont que de partage, de mobilisation aussi de bénévoles, et en fait ils ont été assez nombreux, je pense qu'on a une quarantaine de bénévoles qui ont été mobilisés en amont pour l'organisation de l'événement. Il y a eu la durée de la collecte des données et puis à la fin il y aura la saisie des données qui va peut-être être la partie la moins sympa mais pour autant très importante pour pouvoir en faire quelque chose. Donc on mobilise autant des experts et expertes qui ont envie de partager leurs connaissances, des participants qui s'y connaissent ou pas du tout pour aller relever tous les arbres, les végétaux, les insectes, les chauves-souris même qui nous entourent, et pour pouvoir avoir un inventaire et enrichir un atlas de la biodiversité participative.
J'allais demander à quoi ça sert, donc que deviennent les résultats à la fin des deux jours.
Du coup, ça sert à renseigner toute la faune et flore qu'on peut trouver. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, l'idée c'est vraiment plutôt d'être sur un projet de science participative, mais en tout cas de pouvoir abonder en tout cas les atlas existants de la biodiversité, puis derrière de pouvoir potentiellement mettre en place des mesures de protection de certaines espèces qui peuvent être identifiées.
Et peut-être à quoi ça sert pour les participants
alors ? Alors on a plein de participants étudiants, mais on a aussi donc de toutes les écoles de Carlan, d'ailleurs pas que de l'école Unilassal Rennes, mais aussi de l'école de l'ENSAI qui c'est plutôt une école en statistique, et puis d'autres écoles qui ont été associées. Et donc aussi du grand public, on a le centre de loisirs de Bru qui est venu, le centre social, puis du grand public qui voulait venir. Et pour eux l'idée c'est bah déjà de se réapproprier un peu ces espaces-là, son environnement, d'appréhender aussi de qu'est-ce qu'est le vivant au sens large, et puis d'être sensibilisé, d'apprendre des méthodes de collecte des données, et puis de passer un bon moment convivial en plein air.
S'il fallait choisir une espèce végétale ou animale que vous avez peut-être vous-même découverte là, à cette occasion, ou vous croisez régulièrement sur le campus?
Je sais qu'il y a eu des espèces un peu dignes d'intérêt qui ont été identifiées, notamment une orchidée qui n'avait jamais été identifiée en Ille-et-Vilaine. Il y a eu aussi beaucoup de lichens différents, alors on ne pense pas forcément à y regarder, mais plein de lichens nouveaux qui ont été identifiés, enfin nouveaux pour Bru en tout cas sur ce qui existait comme données. Et puis peut-être aussi une abeille qu'on n'a pas l'habitude de voir ici mais qui a été identifiée à plusieurs reprises.
Combien il y a eu de participants et puis dans quelle ambiance ça s'est déroulé? Ça a aussi lieu un peu en nocturne hier?
Ouais, tout à fait. Alors on est environ autour de 200 participants sur les deux jours. Ça a commencé hier à 13h, on a fini vers minuit parce que pendant la vie nocturne, on a plutôt fait les amphibiens, les chauves-souris ou encore les papillons de nuit. Alors il faisait peut-être un peu froid pour les papillons de nuit. Et puis aujourd'hui, depuis 9h, on est sur qu'on peut trouver en journée sous un soleil radieux, donc c'est plutôt sympa. L'idée c'est aussi d'avoir des temps d'échange, de convivialité. Il y a la présence de Pacific Planet et de la fresque de la biodiversité aussi pour sensibiliser, et puis de pouvoir se rencontrer autour de ces questions, autant entre acteurs de Bru, citoyens, habitants, personnes présentes de Bru, et avec des experts qui ne connaissaient pas forcément le territoire. La ville de Bru a aussi soutenu, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, le projet, notamment en nous soutenant via la fresque de la biodiversité. Ils sont également venus avec le centre de loisirs, etc. Donc c'est aussi chouette de pouvoir mener des projets comme ça sur le territoire.
Donc au niveau des racines de certaines plantes, qu'on appelle les légumineuses, hein, pour ceux qui connaissent, c'est tout ce qui donne les petits pois, le trèfle, tout ça. Eh bien il y a des petites excroissances au niveau des racines qui hébergent une bactérie. Et la bactérie fixe l'azote atmosphérique, elle alimente la plante en azote, et la plante nourrit la bactérie avec du carbone. Et quand on coupe la petite boule, la petite excroissance au niveau de la racine, eh bien on verra une petite couleur rose, parce que la bactérie n'aime pas l'oxygène, et comme l'hémoglobine finalement humaine, ben c'est le pigment, il piège l'oxygène, il empêche de détruire la bactérie. C'est comme ça qu'on a des plantes justement qui servent comme engrais vert après, qui sont autonomes vis-à-vis notamment des apports en carbone, en azote, pour limiter les engrais.
Mais donc vous n'êtes pas qu'expert insecte?
Non, je suis biologiste généraliste. Donc Patrick Villet, je suis enseignant en biologie et écologie à Uni-la-Salle. Et puis je fais de l'écologie, de la biologie animale, végétale, je suis un peu généraliste, donc notamment en classe préparatoire.
Quel est votre rôle aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est de sensibiliser à la découverte de la biodiversité, notamment des personnes des étudiants qui n'ont pas fait de biologie depuis longtemps et qui n'ont pas pris conscience de la diversité, notamment des insectes qui les entourent.
C'est surtout un public qui est en découverte ou il y en a qui ont déjà
là,
un bagage?
Là, c'est un public globalement de découverte.
Et alors, on commence par quoi?
Bah là, on les apprend à regarder ce qu'il y a autour d'eux. Déjà à découvrir, et puis après on fait quelques prélèvements. Et après, ils peuvent commencer à faire des comparaisons. On donne quelques éléments de repère quand même au niveau de la forme, etc. Comment on les distingue, comment on compare. Et puis après, on peut faire des observations avec une loupe binoculaire, par exemple. Ça, c'était bien pour les insectes. Donc, ils découvrent qu'il y a des araignées différentes, qu'il y a des insectes très différents, le nombre de paires de pattes, des chenilles, etc. Donc voilà, c'est après, dire, on ne pensait pas qu'il y avait autant de diversité que ça, etc.
Justement, il y a quoi à voir sur ce campus, Carlane, alors qu'il a la particularité quand même d'être très vert, au-delà des différents bâtiments, des différentes écoles qu'on y trouve?
Disons qu'on essaie d'avoir des zones un peu moins fauchées, notamment, qui permettent d'habiter un nombre d'espèces végétales et animales assez importantes, qui reflètent une grande biodiversité.
Mais ça a toujours été vert comme ça ici?
Oui. Moi, ça fait 30 ans que je travaille ici. Donc, oui. Dès le départ, c'était un campus très vert. C'était une zone déjà de toute façon d'élevage et autres, où il y a des zones qui étaient déjà naturelles. On voit les talus, on voit les haies. Donc, c'est des restes de ce qui existait avant. Et après, ça reverdit un petit peu. Il y a eu des plantations, il y a eu un mélange entre le naturel et puis l'artificiel, quoi, l'ornemental.
Comme aujourd'hui, vous êtes l'expert insecte, est-ce qu'on peut donner des exemples de petites bêtes que les étudiants ont pu découvrir?
Moi, je pense que déjà, la diversité des araignées, de voir nombre d'espèces en fauchant de la végétation, par exemple. Il y a autant d'animaux sur une petite surface, ou avec une collègue au niveau du sol, ce qu'il y avait comme animaux non visibles aussi. Ils prennent conscience de ça. Et là, peut-être que ça va les inciter à faire davantage attention à ce qu'il y a autour d'eux, et peut-être voilà, regarder la nature différemment. C'est le public auquel je suis confronté en cours aussi, en première année. C'est-à-dire que des jeunes qui sont dans leurs écrans et autres qui peut-être auront plus envie d'aller découvrir ce qu'il y a autour d'eux. Et là, ce serait super.
Je suis Mohamed Erafi, je suis en première année à l'ENSAI et j'ai 21 ans. C'est une école sur la statistique et l'informatique et l'économétrie. C'est une école d'ingénieurs et le but c'est de devenir data scientist statisticien.
Moi je m'appelle Claire Dalbin, j'ai 22 ans et je suis aussi en première année à l'ENSAI en tant qu'ingénieur.
Racontez-moi donc ce que vous venez de faire, à quelle heure vous êtes arrivé, vous êtes allé en inventaire sur quoi
Nous du coup on avait toute une journée sur l'environnement, donc il y avait des groupes le matin, nous l'après-midi on arrivait à 14h. Et on avait le choix entre soit partir pour voir des arbres, des plantes ou des insectes. Donc nous, on a choisi les plantes et on a fait un tour vers le fond du campus.
Qu'avez-vous découvert ?
Beaucoup de fleurs. On a appris pas mal de noms qu'on retiendra sûrement pas parce que c'est compliqué les noms de fleurs. Mais on a vu des orchidées. On ne savait pas que ça s'appelait des orchidées. Parce que pour nous, les orchidées, c'est ce qu'on voit dans les maisons et en fait, c'est très différent. Dont des orchidées qui ont été découvertes hier et qu'on n'avait jamais vues en Ille-et-Vilaine. Du coup, c'est plutôt cool.
On a aussi vu des oncolies. On a parlé de noisettes de terre. On a vu plein d'espèces, c'était très instructif. On a fait un petit tour avec un spécialiste. À chaque fois qu'on voyait une nouvelle espèce de plante, il nous expliquait ce que c'était, à quoi ça servait. C'était vraiment très intéressant. Notamment, on a parlé de la différence entre le Véronique et le lin. Parce que les fleurs, en fait, les motifs à l'intérieur, c'est à peu près les mêmes. Et il y a de subtiles différences entre les deux et c'était vraiment intéressant.
Et vous aviez déjà un bagage avant de faire ça ou vous étiez en totale découverte ?
Ah, totale découverte, j'avais du mal à différencier les pâquerettes et les pissenlits. Donc,
on partait de loin quoi.
On partait de loin, pas mal.
Et vous ?
Y avait pas mal de plantes que je connaissais déjà, parce que j'avais déjà fait quelques petites balades comme ça quand j'étais petite. Mais des faits un peu plus intéressants comme le fait que le trèfle, ça absorbe l'azote et que ça peut être utilisé pour l'agriculture et tout. C'est quelque chose que je ne savais pas et c'est hyper intéressant de savoir ça en fait.
Et on termine le reportage avec une association qui était présente pour de la sensibilisation.
Alors moi je m'appelle Mathieu Plot, je suis le cofondateur, on est trois associés fondateurs dans Pacific Planet. Et je suis en charge de toute la partie animation, fabrication des jeux et co-conception également. Nous on est basé à Rennes, ça fait 2 ans qu'on existe, on est une petite structure de l'économie sociale et solidaire. Et on est donc 3 associés, on a 2 alternants et plusieurs stagiaires. Nos missions, c'est de fabriquer des jeux ludiques sur la nature et la biodiversité et d'animer tous ces jeux-là auprès de différents acteurs, que ce soit des collectivités, des entreprises, des universités et aussi pour les plus petits.
Et parmi donc, ces propositions ludiques, il y a la fresque de la biodiversité. Comment est-ce qu'on la présente ?
La fresque, c'est un outil que nous, on n'a pas inventé, hein, qu'on utilise. C'est un super outil qui permet de bien comprendre les enjeux globaux liés à la biodiversité, déjà de savoir ce que c'est que la biodiversité, des écosystèmes et plein de choses qu'on entend parler et qu'on ne sait pas exactement ce que c'est.
C'est basé sur donc des cartes avec des images et entre lesquelles les participants vont être amenés à mettre des liens, on va dire ça comme ça.
Oui, exactement, tout à fait. Alors, c'est une cousine de la fameuse fresque du climat et plein d'autres aujourd'hui qui existent. Et en effet, c'est des liens de cause à effet, c'est des belles images, des photos, du contexte et aussi de l'intelligence collective, du sourire et plein de choses trop sympas.
Et donc de faire du lien entre des animaux, des végétaux, des paysages
Des paysages, des lieux géographiques, des différents climats. Et puis vraiment ce que c'est que la notion de biodiversité quoi, et d'écosystème. Et aujourd'hui, aux côtés du climat, c'est des choses qui sont absolument essentielles et on doit vraiment, chaque citoyen doit vraiment comprendre quoi, ce qui se passe. Quoi, et...
Quand vous le proposez à des groupes, cet outil-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir participer parce qu'elles sont déjà un peu sensibles à ces thématiques-là. Est-ce que parfois vous voyez que ça peut produire quand même des déclics ou des prises de conscience ? Ça marche ça ?
Je crois que oui, ça fonctionne. Alors, il y a différentes fresques. Il y en a qui sont en effet plus anxiogènes que d'autres. Moi, je suis intimement convaincu que la fresque de la biodive, elle permet vraiment de faire des déclics et de toucher, puisque là, on touche à l'émotion. Tu vois, on parle des animaux, on parle des plantes, des végétaux, c'est des choses qui sont extrêmement concrètes par rapport à d'autres sujets qui sont plus abstraits. Et donc, je pense qu'aller vers ces outils, c'est vraiment indispensable si on veut conscientiser la société, quoi.
Est-ce qu'il y a des questions importantes que je n'ai pas posées ?
Moi, j'ai un projet à te parler.
C'est le moment.
On est en train de monter une superbe réserve de biodiversité à côté de Dinan, dans lequel on va tenter de faire pousser des fruits et légumes dans un environnement forestier pour s'adapter au changement climatique, notamment.
C'est sur quelle commune ?
Ça s'appelle les Champs Géraud. C'est entre Dinan Aglo et Pays de Saint-Malo. Là, on vient d'avoir l'autorisation de la SAFER, donc c'est la structure d'État qui gère l'attribution des terres agricoles, qui nous a dit « Go, c'est parti, c'est pour vous, 5 hectares de forêt », et que là, on doit mettre en place pour créer un écosystème ultra résilient et montrer des alternatives à la production agricole actuelle. On y trouvera par exemple du gingembre rustique, du poireau perpétuel, on y trouvera des courges, on y trouvera des fruits à coque comme la noix de pécan, comme des amandes, comme des noix, et aussi un petit peu de vigne et un peu de houblon, plein de choses qui peuvent pousser dans des environnements forestiers qui sont plus irrigués un maximum et qui s'autogèrent finalement pour s'adapter aux grands enjeux qu'on doit faire face dans les années à venir.
Et on peut vous soutenir sur ce projet-là d'une façon particulière ?
Ah ouais, grave. En fait, l'idée c'est que là on va créer une société coopérative. En fait, chaque citoyen va pouvoir investir, être copropriétaire de cet espace forestier. Et ainsi, il ne sera jamais mis à la spéculation foncière, où ce sera vraiment un projet collectif de territoire et qui doit aussi permettre de faire nourrir aussi d'autres projets, quoi. Donc, nous soutenir comment ? En devenant sociétaire, tout simplement, au travers de Pacific Planet, et juste de s'interroger à ce qu'on va faire.
Sinon, il y a une autre renoncule qui lui ressemble, et qui ne s'épale vers le bas, mais qui n'a pas de bulle, qui elle est annuelle. On la trouve beaucoup dans le bassin de Rennes aussi.
Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba. Es un jaleo pa' que siempre estés adelante, un poquito de mela, sazón y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar, un menejito que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más. 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 Se baila así, hay que
Mi Swing es Tropical sur Canal B, un morceau alors de pas mal de monde, Nicodemus et Quantique, ça c'est pour la partie musicale, et les voix ce sont celles de Tempo et The Candela All Stars. C'était le choix musical de Denis qui fait partie de l'équipe organisatrice de l'inventaire de la biodiversité que vous venez de découvrir dans un reportage. Un morceau un peu collage qui date des années 2000 et que vous venez donc d'entendre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale qui, vous le savez, se termine toujours avec quoi ? Avec une recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous. Aussi parfois des conseils lecture, podcast ou encore documentaire. Aujourd'hui, on annonce à la découverte du cuir. Ça se passe à l'écomusée de la Bintinet dimanche 21 avril de 14 à 18 heures. Alors c'est un événement en lien avec l'exposition temporaire Cuir, une matière à fleur de peau qui est à voir jusqu'au 1er septembre 2024. Et il y a un reportage qui est passé dans l'Arène à retrouver en ligne. En plus de l'expo qui sera gratuite dimanche et de visites commentées, plusieurs choses sont au programme. La construction d'un bateau préhistorique en cuir avec l'association Coruc, une projection de court film sur les coups de 16 heures pour comprendre les savoir-faire qui sont liés au cuir en compagnie de la Cinémathèque de Bretagne, et vous pourrez aussi fabriquer votre carnet en croûte de cuir, c'est sur inscription, avec une relieuse. Pour plus d'infos, il y a le site ecomuseerennes-métropole.fr. L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale, tiens, qui prend des congés la semaine prochaine. Pas d'émission. On se retrouve à partir du lundi 29 avril pour des émissions inédites, toujours à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. D'ici là, tiens, vous avez le temps de vous abonner à la newsletter si ce n'est pas fait. Le courrier de l'Arène, les détails, les podcasts, c'est à retrouver sur canalb.fr. Je vous dis à bientôt.